Bonjour Mathilda Di Matteo.
Bonjour.
Page 31 de La Bonne Mère, le personnage de Véro, la mère, est ainsi présenté. Certains disent, comme pour contrer son pouvoir, qu'elle est vulgaire. Moi, je dirais qu'elle est solaire, un soleil de canicule, du genre incendiaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de Véro ?
Oui, bien sûr. C'est une cagole flamboyante qui est à la fois exubérante, mais aussi profonde et très, très intelligente. Elle a une fille, Clara, qui l'a trahie en montant à Paris et qui, pour ne rien arranger, rentre au bras d'un girafon qui s'appelle Raphaël et qui est un pur produit de la classe dominante et qui, pour Véro, représente toute cette trahison et le départ de sa fille.
Elle s'habille, Véro, au superlatif, dites-vous, talons hauts, paillettes, monoeil, blond peroxydé, elle parle fort, elle prend toute la place, c'est une caricature, mais on l'adore, Véro, on a envie d'aller passer notre week-end chez elle. Vous rendez ici très aimable ce que la société est un peu encline à moquer.
Oui, parce que je trouve ça super triste, en fait, que la cagole existe toujours uniquement pour son apparence. Soit quand c'est une insulte, effectivement, et quand j'étais petite, dans mon enfance, j'ai grandi dans les années 90, c'était complètement une insulte. Parce que c'est à la fois la féminité exubérante, débordante, c'est aussi une féminité qui emprunte au code de la masculinité, parce que parle fort, prend beaucoup de place dans l'espace public, et c'est une féminité populaire. Donc clairement, triple transgression, on n'aime pas les cagoles. Dernièrement, elle se réinvente un peu en icône féministe, la cagole, notamment dans les nouvelles générations, parce que c'est une féminité qui s'assume complètement. Et pourtant, elle existe rarement en tant que personne. C'est une icône sans intériorité. Alors, avec Véro, j'ai essayé de lui donner toute une voix intérieure, hein, une sorte de monologue hyper percutant, drôle, mais aussi sage. Elle est très sage, Véro. Et je pense que c'est difficile de se moquer d'un personnage qu'on aime autant, en fait. C'est pas possible.
Il y a donc Véro et Clara, tous les opposent, on le disait. Le contraste entre ces deux personnages passe par une alternance de points de vue et des langues très différentes. Celle de Véro est bourrée de punchlines irrésistibles. On a tout envie de les noter, de les répéter, de les ressortir.
Merci.
Vous avez eu une écriture un peu schizophrène.
Oui. Et d'ailleurs, j'ai vraiment vécu avec ces personnages dans ma tête pendant 2 ans et demi. Donc, c'était très étrange d'être dans ma tête. J'ai des amis qui ont pas mal relu le livre et donc, avant même que le livre soit publié, savaient qui était Véro. Et parfois, je leur citais, je dis, tu sais, Véro dirait ça. Une copine qui s'est fait larguer par son copain, tu sais, Véro, elle dirait ça. Donc, elle était vraiment très présente. Et oui, il y a deux langues très différentes dans le texte. Je m'en suis pas forcément tout à fait rendu compte au début, mais en relecture, j'ai réalisé que, en fait, le thème du livre, c'était aussi comment on s'aime quand on ne parle pas la même langue. Et donc, je trouve ça génial que ces langues soient un peu en miroir, finalement.
Les personnages sont très marqués, très cagoles, donc, ou très cato, très macho, très bobo. Vous partez des stéréotypes pour petit à petit gagner en nuances et créer des ponts et des liens entre tous vos personnages. Qu'est-ce que ça a apporté de partir de ces stéréotypes ?
Eh bien, écoutez, je me rends compte en relisant ce livre qu'effectivement, j'aime bien les choses qui s'opposent. Peut-être plus que s'opposer, du coup, qui se font miroir, quoi. Avoir des personnages qui sont un peu archétypaux au départ, ça aide à capter l'attention, peut-être. Aussi faire croire que le livre est un peu une comédie pour finalement raconter des choses plus profondes et plus graves, c'était peut-être une stratégie pour capter l'attention des gens. Et une fois que je les ai bien, leur raconter des trucs qui peuvent les faire réfléchir. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien apporter de la nuance et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire.
Vous l'évoquez donc, mais dans cette rentrée littéraire très ancrée autour de la figure des mères, votre roman passe donc par la comédie pour finalement raconter le chemin tortueux d'une relation mère-fille, son ambivalence et son évidence à la fois. Vous réussissez sous couvert de légèreté à parler de la complexité de ce lien. C'était aussi le contrat de départ que vous étiez, la mission que vous étiez donnée ?
Eh bien, pas exactement. À l'origine, je ne voulais pas écrire sur une relation mère-fille. Moi, ce qui me fascinait, c'était plutôt les choses qu'on reproduit malgré soi. Cette idée que même si on fuit son milieu social d'origine, même si on s'éloigne de sa mère, on veut absolument pas devenir sa mère, bah, finalement, on reproduit la même histoire qu'elle. Et finalement, en fait, j'essayais plutôt d'écrire la voix de la fille. Et puis, en fait, un jour, j'ai entendu Véro, elle est arrivée. Et donc, j'ai écrit sur une...
Coup de foudre,
elle est très envahissante. Donc, clairement, elle est arrivée, elle a pris toute la place. Et donc, j'ai fini par écrire sur une relation mère-fille, sur la complexité de ce lien. Peut-être parce qu'en fait aussi, vu que ce n'était pas le thème de départ, et ça se mêle à plein d'autres choses, ça en montre beaucoup de facettes.
Petit à petit se dessine par ailleurs dans ce roman une réflexion sur les violences faites aux femmes et sur la violence des hommes. Et ça, c'était plus le dessin de départ alors ?
C'était l'idée, oui. Et je suis très contente que ce soit pas forcément l'unique thème du livre parce que ça rajoute de la légèreté, de la profondeur et aussi beaucoup de joie, cet amour entre la mère et la fille. Mais effectivement, il y a toute cette partie sur la violence qui traverse les milieux sociaux. C'est aussi ça que j'ai essayé de montrer, qu'elle est dans tous les milieux et qu'on peut se accumuler les diplômes et le capital culturel, les capitales sociales, le capital économique, en fait. On subit tous et toutes, surtout toutes, les violences dans cette société. Mais mes personnages masculins, c'est pas des monstres non plus. Je voulais vraiment à la fois pas avoir de victimes parfaites, parce que c'est aussi deux femmes qui sont pas forcément tous les jours faciles à vivre, et avoir des hommes qui soient pas des monstres parce que... parce que les hommes violents, c'est pas des monstres, mais ils sont violents quand même.
Vous signez un premier roman très remarqué, ça donne des ailes pour envisager la suite, ça, ou pas ?
Alors, je sais pas si ça donne des ailes, non. Là, je réalise pas trop ce qui se passe avec ce roman. Peut-être que je plane un peu, mais je suis pas sûre d'avoir des ailes. En tout cas, j'avais déjà commencé le deuxième, et je sais que j'ai vraiment d'autres histoires à raconter. Est-ce qu'elles résonneront autant ? Peut-être pas, mais en tout cas, ça me donne envie de les écrire.
Mathilda Di Matteo, vous signez La Bonne Mère chez l'Iconoclaste. C'est le premier roman de cette rentrée littéraire, une entrée fracassante, solaire, tantôt hilarante, tantôt poignante sur la scène littéraire. Merci beaucoup.
Merci à vous.